Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Comme c'est moi qui fais le poulet frit, là, je suis un peu en mode illimité poulet frit. Je sais pas si c'est bon pour moi, mais j'en mange tous les jours quand j'en ai à la carte, quoi.
Dans le ventre de Maurice Sacco.
Je viens de sortir du métro Gaîté à Paris et je me dirige vers Mosuke, le restaurant du chef Maurice Sacco. Maury, vous l'avez peut-être aperçu dans Top Chef. Il a fait une ascension fulgurante ces deux dernières années. J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Maury par téléphone, mais j'ai très envie de le rencontrer, en chair et en os. Déjà car j'aime comment il parle de sa cuisine. Aussi, j'avoue, car j'ai très envie de goûter son poulet frit, qui, paraît-il, est excellent. Ah voilà, j'aperçois son restaurant.
Hello. Salut Maury.
Oui.
Ça va?
Ouais, ça va, c'est bien.
Ouais. J'enregistre déjà. Voilà. Bah, enchanté, Zazie, je t'ai fait un petit shake de coude.
Bah, bienvenue. Donc voilà, on est dans l'enfer, on a les mecs qui, après, ça reviendra à sa page.
C'est l'interview la plus compliquée, parce que l'interview bouche pleine.
Bon, bah voilà, le poulet. Le fameux poulet frit. Donc là, on a le poulet, et avec, on a une sauce cajun. Donc c'est vraiment, là, c'est une sauce yaourt avec juste les épices et fleurs de sel. Et c'est vraiment, après plusieurs tests, on s'est rendu compte que fallait juste une crème pour porter cette épice et pas besoin de grand chose de plus. Et à côté, c'est la sauce bulldog, donc c'est la sauce qu'on retrouve habituellement, qui accompagne les fritures japonaises type tonkatsu dans les sando et autres. Et c'est vraiment une sauce qui marche hyper bien avec la friture. Donc encore une fois, c'était vraiment pour faire ce clin d'œil à la friture japonaise, donc en l'accompagnant avec la sauce classique, quoi.
Et ça se mange avec les mains?
Ouais, c'est le meilleur moment avec le poulet. On s'allie un peu partout. Donc le but, c'est...
Je prends mon morceau et je le trempe.
Voilà, c'est ça, il faut le tremper, hein, c'est du dip. J'espère que ce ne sera pas trop chaud. Donc, normalement, ça doit s'entendre. On va croquer dans le poulet. Un peu faux.
C'est super bon.
Merci. Merci.
Est-ce que, pour commencer, tu peux me dire où est-ce que tu as grandi et tes souvenirs culinaires enfant?
Bah alors moi, j'ai grandi dans le 77, en Seine-et-Marne, dans une petite ville qui s'appelle Tournon-en-Brie, donc en plein milieu de la Brie, comme le nom l'indique. Et donc j'ai grandi avec mes frères et sœurs, famille nombreuse. Je suis le sixième d'une famille de 9 enfants, donc je fais partie des petits. Et chez moi, on a toujours mangé, ma mère est une excellente cuisinière. Donc, on n'est pas professionnel, mais à la maison, elle faisait vraiment des plats super bons. Alors, on a mangé un peu toute la cuisine de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je mangeais vraiment, que ce soit vraiment les plats un peu emblématiques de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le mafé, le tchaboudjen, le yassa, que ce soit le tchéké poisson ivoirien. Et toutes ces influences, en fait, d'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment ce que je mangeais, moi, au quotidien à la maison. Et puis après, bon, pour le côté un peu plus occidental, c'est quand je sortais avec mes potes et qu'on allait manger ailleurs, quoi.
Et du coup, t'as des souvenirs d'enfant de ta mère en cuisine? Ça représentait quoi, le lieu, la cuisine, pour toi, quand t'étais petit?
On va dire qu'environ 50% de mes souvenirs de ma mère sont dans la cuisine, parce qu'elle y passait énormément de son temps. Et pour moi, la cuisine, c'était un peu le lieu... dire la cour au miracle, mais je savais que j'y trouverais toujours quelque chose à manger, à grignoter, et puis surtout, ça m'évoquait ma mère, tout simplement, parce que je savais que si j'allais dans la cuisine, il y a des grandes chances que j'y retrouve, donc c'est là où j'allais la chercher principalement.
Et quand on est 9, Armand, on n'était que 4 filles, mais déjà, j'ai l'impression que on comptait le nombre de pommes noisettes et tout, c'était la guerre. Est-ce que c'était comme ça avec tes frères et sœurs ou pas du tout?
Alors, non, justement, on se battait pas, parce qu'on est dans une école plus du trop que du pas assez, donc du coup, c'était plutôt, vous allez tous finir votre plat et puis voilà quoi. Donc on mangeait plus qu'il fallait au final.
Et toi, t'aidais en cuisine ou t'aidais à faire les courses ou c'était vraiment le territoire de ta mère?
Alors, la cuisine, c'est vraiment son territoire. Donc, j'ai aidé vraiment pas en cuisine. Après, bah, c'est sûr que les courses, bah, du coup, hein, quand on cuisine pas, on est au moins corvée de courses. Donc, du coup, j'y faisais souvent ces courses.
Donc, c'est peut-être là que tu as commencé un peu aussi à la recherche des produits, quoi, toi qui es chef maintenant. Et...
Bah, cette recherche des produits, non, parce qu'à ce moment, j'étais jeune et j'avais plus la dimension corvée. Je me disais, oh, je préfère aller jouer au foot avec mes potes plutôt que d'aller faire ces courses-là. Donc, honnêtement, mais je pense que maintenant que je suis cuisinier, bah, tout ça, ça me revient parce que bah, elle me disait exactement, ouais, la plantain, tu la prends quand il y a des taches noires, tu la prends pas quand elle est verte, t'appuies dessus, le gombo, il est bien quand il est bien croquant, et elle m'a vraiment appris à sélectionner ces produits-là. Donc, sur le moment, c'était une corvée, mais maintenant, je me rends compte bah, qu'une plantain, je me fais pas avoir, je sais exactement à quel moment la choisir, et par rapport à l'utilité, si je vais l'utiliser maintenant, dans 3 jours, vraiment choisir le bon degré de maturité, quoi.
Et à partir de quand tu as pensé à la carrière de chef, de cuisinier?
Bah, moi, cette carrière de chef, cuisinier, elle est vraiment arrivée bah, en toute fin du parcours, on va dire, général, quoi, donc en troisième, où il a fallu justement choisir une branche où soit je restais dans le général et je me laissais encore un peu de temps pour réfléchir. Et en réfléchissant un peu, je me suis toujours dit, ouais, en fait, j'adorais les trucs sur l'univers des palaces et de l'hôtellerie en global. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, on se lance. Et ça commençait par un BEP hôtellerie, option cuisine. J'adorais, moi, regarder tous ces documentaires sur les palaces où on voit un peu l'envers du décor, on voit les équipes derrière, on voit vraiment le souci du détail, l'excellence qui est mise en avant à chaque fois et tout. Et c'était des choses qui, non pas me faisaient rêver sur le moment, mais en tout cas qui m'intéressaient énormément, quoi.
Et quand t'es arrivé là, t'aurais pu faire autre chose? Enfin, j'imagine que ça forme à plusieurs métiers, ce BEP d'hôtellerie. Toi, t'avais l'option cuisine. Quand est-ce que vraiment la cuisine, ça a pris le dessus?
Bah, moi, la cuisine, ça a pris le dessus, on va dire, franchement, dès le premier TP. Hein. Je me suis retrouvé devant un poulet avec une aiguille à brider et un fil, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous à coudre un poulet? Je me souviens que c'est ma première émotion de cuisine, en tout cas.
Et toi, ton histoire, quand tu la racontes, on a l'impression que c'est facile. Mais alors, après, c'est aussi peut-être que t'es quelqu'un de très positif. Est-ce que ça a toujours été très facile? Parce que, à côté de ça, on a l'impression que l'univers, quand même, dans les palaces et tout, il peut être dur, il peut être compliqué. Toi, ça a toujours été simple?
Bah, ouais, quand je raconte les choses, ça peut paraître très simple, c'est vrai. Bah, j'ai ce défaut, en tout cas, de rendre les choses un peu accessibles et de dire, ouais, c'est facile. Mais non, c'est sûr que c'est un univers où, selon les différentes entreprises, c'est ce que j'ai réussi et c'est ce que j'ai compris après au fur et à mesure de ma carrière, qui peut être assez dur, assez rude, parce que, bah, encore, il y a cette notion d'excellence, il y a cette notion aussi de respect de la hiérarchie qui, des fois, peut être poussée à son extrême. Et moi, je sais que s'il y avait une expérience qui ne me plaisait pas ou que je n'appréciais pas, je préférais arrêter. Et c'est pour ça que le lieu, entre guillemets, où je me suis plus épanoui, c'est le Mandarin Oriental, où le chef avait vraiment des valeurs qui sont quasi connexes aux miennes, d'un point de vue managérial, d'un point de vue humain.
C'est ça.
Bah, moi, au Mandarin Oriental, j'ai passé 4 ans et demi, pratiquement 5 ans. Donc, c'est la plus grande expérience, on va dire, dans ma carrière. Et c'est vraiment... quand j'étais sous-chef et lui chef, c'est vraiment là où j'ai compris... ce qu'était réellement Thierry Marx dans son approche du management et tout. Et je me rends compte qu'en fait, c'est juste un chef qui avait peut-être 10-15 ans d'avance sur son temps dans ces matières-là. Donc lui, c'était pas de mec qui balance de casserole, personne qui crie, on parle respectueusement. Et vraiment, pour paraphraser une de ses... parce qu'il balance aussi comme ça quelques maximes, comme il a l'art de faire. Mais c'est vraiment... il nous disait qu'il fallait être... dur avec les faits et bon avec les hommes. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui disait tout, quoi. C'est que ce que tu as fait, c'est de la merde, mais je n'ai rien contre toi. Mais ce que ton travail n'est pas bon, quoi. Et c'est jamais personnel, c'est vraiment justifié. Et faut montrer et démontrer ensuite. Donc, si le commis fait quelque chose qui n'est pas bien, certes, c'est de sa faute, puisqu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais c'est aussi au sous-chef de se remettre en question, de se dire, est-ce que je lui ai bien montré? Et c'est vraiment, d'un point de vue managérial, j'ai appris énormément de choses, et pour moi, c'est naturel maintenant, mais c'est quelque chose que je fais autant que chef, naturellement, quoi.
Ouais, ça paraît logique, mais c'est vrai que peut-être la cuisine, c'est des endroits où les cuisines, où on met beaucoup d'ego et beaucoup de choses qui, en fait, dépassent le cadre de la cuisine. En fait, c'est juste revenir à se dire qu'une cuisine, ça reste une cuisine, quoi. C'est pas...
C'est ça, c'est que ça pourrait... Pour d'autres corps de métier qui se diraient, ouais, bah, c'est juste normal, en fait, de traiter les gens avec humanité, mais en fait, c'est pas la majorité, en fait. On n'est pas majoritaire, ceux qui pensent comme ça en cuisine. On est à la limite d'un cadre qui peut être militaire, on va dire. Et il y a une hiérarchie très forte et il y a beaucoup d'ego. Donc, tout le cadre peut être parfait pour avoir des dérives, qui soient du harcèlement physique ou du harcèlement moral. Et le chef est un peu mis sur un piédestal où il est tout puissant et on ne peut rien dire. Et tout ça peut être la porte ouverte à tous les abus. Et c'est bien de dire que non. Tout simplement non. C'est des abus, c'est des abus. Et donc, ce n'est pas normal, quoi.
Mais en lisant des interviews sur toi, ça revient souvent que tu es quelqu'un de gentil. Et de positif. Et je me disais, je réfléchissais dans le métro et je me disais, c'est pas forcément une valeur qui est à la mode.
Ouais, carrément. Ouais. Au final, c'est maintenant, de nos jours, dire que quelqu'un est gentil, c'est limite devenu un défaut, quoi. De se dire que être gentil, c'est un défaut. Bah, non, quoi. Être gentil, c'est bien. C'est bien d'être gentil et c'est bien d'être positif, quoi. Et vaut mieux avancer et ne pas changer. Et justement, c'est ce qui m'a apporté là où je suis actuellement, c'est que voilà, j'ai toujours réussi à rester positif. Et sympathique, quoi. Et donc, comme quoi, non, ce n'est, on avance aussi en étant sympathique, positif et gentil.
On va essayer.
on va faire l'école de la gentillesse. Fini. Ouais, tu peux y aller. 18. Bah, les gars, bonne soirée. Bon après-midi, plutôt.
Et Top Chef, c'est toi qui as décidé de le faire parce que tu t'es dit que ça allait être... Enfin, ça allait être un bon tremplin pour te faire connaître, c'est ça ?
Ouais, bah Top Chef, moi, c'était vraiment... on va dire, je voyais ça comme un double effet. Bah, il y a d'abord forcément l'effet où il y a une exposition médiatique, où on gagne du temps et que si on réussit son expérience, ça peut être très bénéfique pour nous par la suite. Mais il y avait aussi un spectre où, justement, j'étais à un moment de ma carrière où jusqu'ici, j'avais travaillé que dans des palaces, que pour des chefs, et que j'avais toujours une idée de la cuisine que j'aimerais faire, que je ferais si j'étais tout seul, et que Top Chef me permettait justement de... Bon, entre guillemets, de faire cette cuisine que j'avais en tête et de la proposer tout de suite à des grands chefs. Donc, en gros, sauter sans parachute et on voit ce qui se passe, quoi. Et les deux, en fait, ensemble, bah, ça peut faire que ça peut être qu'une bonne idée.
Et tu disais, toi, que tu avais eu donc, le courage de, voilà, de présenter ta cuisine et celle que tu voulais, donc ces influences africaines et japonaises. Mais est-ce que c'est pas déjà aussi, finalement... Et ce qui devrait sans doute pas l'être, mais ambitieux de dire qu'on va faire un restaurant gastronomique avec ses influences africaines, parce qu'en réalité, en France, on a pourtant... Voilà, ça n'existe pas.
Bah justement, c'est ambitieux, mais ça ne devrait pas l'être, parce que la cuisine africaine, elle est énormément sous-représentée, on va dire, dans le paysage gastronomique français, par rapport à la, entre guillemets, au pourcentage de la population qu'on retrouve, qui, elle, est d'origine africaine. Donc, on a une très belle représentation des cuisines asiatiques, une très belle représentation aussi des cuisines nordiques qui commencent à arriver. Mais d'un point de vue gastronomique, la cuisine africaine est sous-représentée. L'idée commence à se faire, les gens commencent à se faire à l'idée d'une cuisine africaine qui serait différente des clichés qu'on a pu avoir ces dernières décennies. Et c'est-à-dire que la cuisine africaine est différente et qu'il y a... plusieurs cuisines africaines, en fait. Quand on parle de cuisine africaine, on parle d'un continent grand comme je ne sais combien de fois l'Europe. Et en fait, on se rend compte que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe ou la Corne de l'Afrique, bon, ou centrale d'ailleurs, ce sont des cuisines qui sont totalement différentes. Donc pour moi, je trouve ça super cool qu'on puisse y arriver. Et je pense qu'il y a plusieurs cuisiniers comme moi qui vont de plus en plus arriver. Et il y en a déjà qui sont présents, qui font la cuisine africaine, mais avec... un angle gastronomique moderne, on va dire, qui ressemble vraiment à ce qui se fait en ce moment.
Ça doit faire une petite quinzaine d'années quand même que les chefs sont comme ça un peu starisés. Mmh. Toi, c'est quelque chose que tu vis aussi un petit peu, j'imagine, avec Top Chef.
Ouais, c'est... ça fait, on va dire, ça fait partie du jeu. Hein. Donc, les selfies et autres. Bon, déconfinement, c'était vraiment la folie parce qu'il y avait vraiment un grand engouement sur Top Chef et tout. Donc, c'était quasi, je pouvais plus aller faire mes courses et tout. C'était fou. Et là, ça va, ça s'est calmé, un peu plus tranquille. Donc maintenant, on a des selfies moins, plus des pouces en l'air de loin, c'est plus cool. Mais ce que j'ai retenu, c'est que les gens étaient vraiment sympas, quoi. Après, la personne qui demande une photo, elle ne sait pas qu'elle est la 20e de la journée, quoi. Donc elle, c'est juste, elle te demande, et puis c'est toujours fait hyper poliment et tout. Donc on refuse pas, mais c'est sûr que
quand je fais mes courses, et je pense que c'est la même chose pour les chefs cuisiniers, pour tous les chefs cuisiniers un peu connus, j'ai l'impression qu'on juge mon caddie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans son caddie?
Pourquoi il a acheté du Babybel?
Pourquoi il y a du Babybel et c'est des chocobons que je vois à côté? Donc je me sentais un peu jugé sur mon caddie, quoi.
Est-ce que, comme les artistes, tu penses que les cuisiniers, ils ont aussi des messages à faire passer et des messages politiques?
Moi, je pense que oui, il y a maintenant la cuisine, elle est un peu politique, je dirais politique, dans un sens où il y a des messages à faire passer. Et j'ai remarqué que souvent, les chefs qui ont des messages à faire passer ont souvent une cuisine qui est beaucoup plus réfléchie, et beaucoup plus portée par ces choses-là. Mais bon, bah, par exemple, je pense que la politique maintenant de l'écologie, de faire attention à ce qu'on mange, de la saisonnalité et autres, pour moi, c'est censé être un acquis pour tout cuisinier, entre guillemets, digne de ce nom. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut travailler avec une certaine saisonnalité, qu'il y a une localité à avoir. Et moi, le premier, sachant que j'ai un peu une balle dans le pied sur ce sujet parce que je travaille des produits exotiques, donc il y a forcément un peu d'import, ben, j'essaie de faire au mieux de ce que je peux, en tout cas sur les produits, et je travaille au maximum de produits locaux. Après, sur la politique, bah, par exemple, on pourrait dire que moi, qui ai une cuisine, qui justement, où je dis, ouais, il y a une sous-représentation de la cuisine africaine, ça pourrait pencher sur un penchant un peu plus politique. Mais non, je trouve que le meilleur moyen, justement, de faire passer un message, c'est de faire cette cuisine, qu'elle soit bonne, qu'elle soit réussie et qu'elle soit saluée, quoi. Justement, le message le plus éclatant, c'est le message de réussite, donc il faut tout donner pour réussir.
Et ouais, d'ailleurs, j'ai lu dans beaucoup de tes interviews aussi que tu affichais ouvertement que tu voulais avoir une étoile.
Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est je l'affiche et en tout cas, j'ai pas de crainte à le dire parce que c'est un objectif qu'on a eu depuis le jour 1 du restaurant. Moi, j'ai recruté mon équipe en leur disant, les gars, l'objectif c'est l'étoile et moi je veux qu'on travaille depuis le premier jour comme un restaurant étoilé. Donc on ne l'a pas, mais on travaille comme si. Et donc si je travaille comme si j'étais étoilé, bah, ça va de pair de dire que je cherche cette étoile.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Maurice, c'était super cool. Et à cause de moi, je crois que t'as pas fini ton morceau de poulet.
Ouais, mon morceau de poulet, il est froid, mais toujours
aussi
en fait.
Ouais. Tu vas le manger quand je serai parti, froid.
Ouais. Je vais le manger froid. Chaud, froid, le poulet frit, c'est toujours bon.
Ce qui est incroyable, c'est que depuis cette interview, Maurice Acco a gagné sa première étoile. En attendant de pouvoir vous attabler chez lui, vous pouvez, si vous habitez à Paris, aller chercher son poulet frit à emporter. Maurice Acco anime aussi l'émission Cuisine ouverte sur France 3, où il explore la cuisine de terroir. Dans le prochain épisode, on retrouvera la chanteuse Alice et moi, chez elle, où on partagera un plat qui se mange en faisant beaucoup de slurp et de Vous allez l'entendre, c'est très radiophonique. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
Je voudrais te faire une petite playlist et je vais te demander des chansons pour différentes occasions.
Carrément.
Donc, bah, pour cuisiner déjà, pour commencer.
Ma chanson pour cuisiner, alors, Juicy, du Biggie.
Une chanson quand t'as faim.
Allez, on dirait Busta Rhymes, Break Your Neck, parce qu'il faut que ça aille vite.
J'allais dire une chanson contre le track, mais tu m'as dit que t'avais jamais le track. Mmh. Mais par exemple, une chanson, moi j'aime bien, je sais, quand j'ai un événement, quand je vais rencontrer des gens, je suis un peu stressée et tout, j'aime bien mettre des musiques qui me motivent, quoi.
Ah bah moi c'est au contraire, du coup, comme je suis pas stressée, je suis encore plus calme, allez, j'irai à Simply Beautiful.
Ta chanson préférée de tous les temps?
Oh, ça c'est dur.
Je bois un petit peu de
Jupiter pendant. Alors, il y a le Killing Me Softly, mais la version de Roberta Flack, que j'adore. Ensuite, Pitbull de B2O, de Booba, que j'adore aussi. Et Ghetto Gospel de Tupac, que j'adore aussi.
Et une dernière, une chanson pour un premier encart.
Chanson pour un premier encart. Bah, je dirais que c'est plus une strat opportuniste. Il faut savoir ce qu'elle aime. Hein. C'est le meilleur moyen. Faut pas mettre la chanson de gros lourd. Pas d'R. Kelly, surtout pas. Parce que c'est un peu relou, quoi. La pauvre, elle va se dire, qu'est-ce qui se passe? Faut quelque chose qui la mette à l'aise. Donc,
Faut
un peu enquêter avant. Hein, faut pas se rater, quoi. Faut pas mettre une ambiance trop pesante.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.